Écoutez ma modeste présentation d'un sujet grandiose, sublime. Mon plan est simple. Il va comporter quatre parties de longueur inégale. Premièrement, la révélation de Dieu, la révélation progressive de Dieu par la création, par les prophètes, par le Fils, la parole faite chair. Deuxièmement, Jésus-Christ caché dans l'Ancien Testament. Troisièmement, la parole de Dieu dans la vie de Jésus. Jésus citant la parole pour l'accomplir. Quatrièmement, révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse ou l'Oméga. Ma présentation couvrira les 2 heures, remplira les 2 heures avec 3 pauses de cantiques que nous chanterons debout, qui seront affichées derrière moi à l'écran. Mais avant de commencer, je voudrais que nous prions ensemble. Seigneur Jésus, quand tu étais sur la terre, tu as dit aux Juifs de ton temps, « Sondez les Écritures, car elles rendent témoignage de moi. » Et aux disciples d'Emmaüs, pendant ces 11 kilomètres qui séparent Jérusalem d'Emmaüs, tu leur as dit, commençant par Moïse et par tous les prophètes, tu leur as enseigné dans toutes les Écritures les choses qui te regardent. Combien nous aimerions avoir par écrit cet entretien, mais tu ne nous l'as pas conservé. Peut-être pour que nous cherchions dans l'Ancien Testament justement les choses qui te regardent. Je te demande que tu soutiennes mon esprit fragile par ton Saint-Esprit pour la gloire de ton nom et le bien de chacune de nos âmes ici. Amen. Le livre que je tiens entre les mains, la Bible, commence d'une façon abrupte et insolite. Au commencement, Dieu. Vous connaissez un autre livre au monde qui commence ainsi? On a appelé cela le portail de l'Écriture. Il y a quelques années, un certain Pascal Pic, conférencier, qui tient une chaire à Paris, au Collège de France, a écrit un livre avec le titre « Au commencement était l'homme ». Et c'est une véritable ineptie. L'homme ne peut pas être au commencement. Si Dieu est Dieu, il est nécessairement au commencement. Il n'y a rien avant lui. D'ailleurs, dans Ésaïe, il le dit, « Moi, le premier et le dernier. » Et Jésus-Christ dit, « Je suis l'alpha, la première lettre de l'alphabet grec et la dernière, oméga, alpha et oméga. » Au commencement, Dieu. Les spécialistes nous disent que Dieu, là, c'est Elohim, c'est un pluriel. Donc, nous avons déjà là le mystère de la Sainte Trinité. La Trinité, même si ce mot n'existe pas dans la Bible, la pensée existe bel et bien. Les personnes divines sont très peu différenciées dans l'Ancien Testament, certes, mais après, dans le cadre de la révélation, oui. Comment expliquer ce mystère de la Trinité? Eh bien, on peut tenter une image. Vous avez un lampadaire avec trois lampes, mais c'est un lampadaire. Fait à l'image de Dieu, nous sommes constitués de corps, âme, esprit, trois choses. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Que fait ce Dieu? Il crée. Au commencement, Dieu créa. Et les spécialistes encore nous disent, bara, en hébreu, c'est créer à partir de rien. Ou en latin, si vous voulez, ex nihilo. Créer à partir de rien. Ça, c'est choquant, ça. Quand on parle d'une création, un artisan qui crée un objet, un artiste, en fait, c'est impropre. Vous connaissez, comme moi, la célèbre maxime du chimiste Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En fait, c'est des éléments qui sont transformés et assemblés. C'est la prérogative de Dieu de créer à partir de rien. Ce n'est pas que nous comprenions, mais nous l'admettons. Parce que nous avons la foi. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Et ce verset, d'ailleurs, a dû être un petit peu difficile à traduire, parce qu'il y a une variante que j'ai à la fin de ma Bible. J'y vois rien, j'ai une. En sorte que l'univers que nous percevons d'une manière intellectuelle et avec nos instruments ne tire pas son existence des phénomènes dont nous observons l'apparence. Dieu crée. Et Dieu est comme un artiste. L'artiste, il fait un chef-d'œuvre. Je prends quelques exemples. Si vous regardez le penseur de Rodin ou le tableau de la scène de Rembrandt, ou si vous écoutez le Messie de Handel ou le canon de Pachelbel, vous dites pas seulement quel chef-d'œuvre, mais quel artiste. Eh bien, le monde, avec sa complexité, témoigne de la sagesse infinie de Dieu, de sa puissance, de son sens esthétique. Selon cette parole de Paul en Romains 1, ce qui ne peut se voir de Dieu, savoir sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de l'intelligence, et là on peut ouvrir une petite parenthèse, dire augmenter de nos instruments, par les choses qui sont créées. Et le témoignage de la création est impressionnant. Et il est permanent. Ce qui amène à dire à Paul, les hommes sont inexcusables. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, tout témoigne de Dieu. Et Dieu a fait les mondes, l'univers, comme un artiste, et il s'est retiré de sa création. Que dis-je? Il ne peut pas être dans sa création, sinon il serait bien petit. Et ça, Salomon l'a bien compris quand il a dit « Les cieux des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que je bâtis. » C'est pour ça que Dieu est invisible. S'il était visible, il serait petit, et nous, on serait grand. Quel témoignage de la puissance de Dieu nous avons sous les yeux. Mais bon, faut-il encore en parler? Il faut que je prenne 10 minutes ou un quart d'heure pour vous parler de ce chef-d'œuvre de la création. La création est attribuée aux 3 personnes de la Trinité. Dans beaucoup de passages, Dieu est le Créateur. Mais dans 3 grands passages du Nouveau Testament, Dieu le Fils est le Créateur. Alors, il y a l'Évangile de Jean, chapitre 1er, dans le prologue de Jean, où il est présenté comme la parole, « Toutes choses furent faites par elle. » Il n'y a pas une seule chose de ce qui a été fait sans elle. Colossiens 1, toutes choses furent faites par lui et pour lui. Et enfin, Hébreux 1, Dieu a fait par le Fils, il a fait les mondes. L'infiniment grand et l'infiniment petit. Commençons par l'infiniment petit. Il faudrait écouter un chercheur en biologie qui nous parlerait du décryptage du génome et de notre ADN qui, au milieu des 8 milliards d'habitants qui peuplent la Terre, est une véritable carte d'identité au point que quelque truand, quelque assassin qui a ne serait-ce que déposé un peu de sueur sur la poignée d'une porte peut être reconnu, confondu et condamné. Ces biologistes font un prélèvement d'ADN sur une dent ou un cheveu de 2 momies égyptiennes et peuvent vous dire si ces 2 pharaons ont un lien de parenté alors qu'ils vivaient sur la terre il y a 40 siècles. Époustouflant. Un autre biologiste vous parlerait pendant des heures de notre cerveau, du cerveau humain qui pèse 1,5 kg, on pourrait le tenir dans le creux de notre main. Cet organe dont Hubert Reeve dit que c'est la masse de matière la plus élaborée de tout l'univers. Un autre nous parlerait du fonctionnement de nos cellules, de chaque cellule qui est une véritable petite usine connectée aux autres. Un autre scientifique en sciences subatomiques nous parlerait de l'atome, des électrons qui tournent autour du noyau, il nous parlerait des protons et du boson de X et d'Y. Et le monde animal. Je vous en donne que 2 exemples, parce que là, on serait jusqu'à minuit. Là. 2 exemples. Un arachnologue nous parlerait pendant des heures des 24 espèces d'orbitelles qu'il y a en France. Ces araignées, vous savez, qui font de belles toiles géométriques avec des rayons et une spirale et un trou au centre. Il nous parlerait, et cet arachnologue, il reconnaît à la toile, à la forme du trou, au nombre de rayons, au nombre de spires, à l'inclinaison de la toile, il reconnaît les 24 espèces. Par exemple, la méta des fenêtres fait une toile comme un camembert auquel on aurait enlevé une part. Et dans la part manquante, le fil d'alerte. Dites-moi, qui a dit à la petite mais tu as des fenêtres nées au printemps qu'il fallait faire exactement la même toile que sa mère et pas la toile de l'éperdiadème. Deuxième exemple, le tardigrade. Ce petit animal d'un demi-centimètre de longueur qui vit congelé dans les glaces du pôle, dans la banquise pendant 6 mois. Quand la banquise fond, il gigote de nouveau, il se reproduit, et au fin octobre, il est de nouveau congelé pour 6 mois, et d'année en année, ça se répète depuis des centaines d'années, peut-être des millénaires. Et l'infiniment grand, faut que je vous donne quelques chiffres pour vous donner le vertige. Si on représente la Terre, le Soleil, de la grosseur d'un ballon de foot. La Terre, elle, est de la grosseur d'une tête d'épingle à 24 mètres du ballon. Et ces 24 mètres, c'est 158 millions de kilomètres. La Terre fonce dans l'espace à 158 millions de kilomètres à la vitesse de 107 000 kilomètres à l'heure. Top ! Une seconde, nous avons fait 30 kilomètres. 105 en hiver, 105 000 en hiver, elle ralentit légèrement, donc elle se rapproche. En été, comme maintenant, 107 000 kilomètres, elle accélère, elle s'éloigne. Elle tourne elle fait une grande ellipse qu'on appelle une zone, une couronne qu'on appelle l'écosphère. Serions-nous 5% plus près du Soleil, nous serions brûlés. 5% plus loin, nous serions gelés. Et cette distance adéquate dépend de la masse de la Terre. Si la masse de la Terre était plus élevée, nous serions plus loin. Si elle était plus près, nous serions, si elle était moindre, nous serions plus près. Exactement la bonne masse pour la bonne distance pour permettre la vie sur la Terre. Que la Terre échappe à cette couronne, en quelques secondes, ça serait l'anéantissement de toute forme de vie sur la planète Terre. Et c'est là qu'on comprend la puissance du verset d'Hébreux 1, non seulement Dieu le Créateur, mais il maintient toute chose par la parole de sa puissance. Non seulement Dieu a créé les cieux et la terre, mais il a créé les lois qui régissent dans l'ombre l'univers et que les hommes ont découvert. Dieu pose plusieurs questions à Job, mais entre autres celle-ci au chapitre 38. « Connais-tu les lois des cieux et règles-tu leur empire sur la terre ?» Dieu a fait les lois, heureusement. Et ces lois, elles ne vacillent pas, elles sont fermes, heureusement pour nous. Donc, la Terre tourne autour du Soleil avec 7 autres planètes, de la petite Mercure qui est plus près du Soleil jusqu'à Uranus, qui met 165 années terrestres à faire le tour du Soleil. Le diamètre du système solaire, c'est 17 heures-lumière. Retenez bien ça, 17 heures-lumière. À la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde, il faut 17 heures pour traverser le diamètre d'Uranus, grosso modo. Et dans le système solaire, il y a encore des merveilles qui arrachent mon admiration. Par exemple, les éclipses de soleil et de lune peuvent être prédites des années et des mois et des années à l'avance. Et puis, les transits de Vénus. De temps en temps, Vénus passe devant le soleil. Tous les 120, 150 ans, 8 ans. 120, 150 ans, 8 ans. 150 ans, etc. Le dernier transit de Vénus a eu lieu en 2012. Le prochain aura lieu en 2117. Et le prochain aura lieu en 2125. Et si vous voulez, je peux vous donner la date. Le 11 décembre 2117, entre 23h58 et 5h38 du matin. Et même j'ai la date du 13 décembre 2360, entre 24h du matin, 8h du soir et 4h du matin. Oh, mais vous allez me dire, là tu vas un petit peu loin, là, parce qu'en 2117 et 125, on ne sera pas là pour vérifier. Eh bien, un certain Jacques Lalande a prédit le transit de Vénus de 2008, 232 ans avant, et c'était pile poil. L'horloge de Dieu est bien réglée. Elle est beaucoup plus fiable que l'horloge astronomique de Strasbourg. Cette horloge magnifique, elle a fonctionné pendant 2 siècles, puis elle s'est arrêtée. Tout était usé. Il a fallu en construire une deuxième, et on en a construit une troisième. L'horloge de Dieu, elle fonctionne merveilleusement. Le système solaire, il est quelque part dans la périphérie de la galaxie qu'on appelle la Voie lactée, dont on voit la tranche la nuit dans cette coulée blanchâtre. Et cette galaxie, dans laquelle est le système solaire, il fait 100 000 années-lumière. Si nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière, cette vitesse inconcevable, 300 000 km en une seconde, grosso modo Terre-Lune en une seconde, il nous faudrait 100 000 années pour la traverser. Et ce n'est qu'une galaxie parmi les milliards de galaxies qui peuplent l'immensité du cosmos. Le télescope Hubble, qui est à 400 km au-dessus de nos têtes, qui nous envoie des photos merveilleuses des nébuleuses, les piliers de l'univers et la tête de cheval, ne voit, entre guillemets, qu'à quelques centaines d'années-lumière. Et notre galaxie fait 100 000 années-lumière. Certainement, l'univers est fini, mais nous sommes loin d'en voir les bords. Que Dieu est grand. Et nous sommes là, tout petits, sur cette tête d'épingle et dans ce local. Ce n'est pas étonnant qu'en évoquant cela, cette création, l'apôtre Paul, en Romains 1, dans ce passage que je viens de citer, il entonne sa première doxologie, ses discours de gloire, il en a 10 dans ses épîtres, sur les 16 des épîtres, et nous répétons avec lui ce créateur auquel soit la gloire éternellement. Amen. On estime que l'apôtre Paul avait eu le temps de contempler la création. On estime que Paul a fait 5000 km à pied et 15000 en bateau. Nous, quand on est à 130 km sur nos autoroutes ou à 130 km dans notre vie, on voit rien du tout. Il faudrait peut-être un peu s'arrêter, il faudrait peut-être un peu étudier la création, parce que c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Ce n'est pas étonnant que David ait composé sur la création. Et j'imagine le jeune berger, David, près de son village de Bethléem, il a enclos ses moutons pour la nuit. Et là, sous la voûte étoilée, dans ces chaudes nuits d'Orient, il a pris son luth ou sa harpe et il a commencé à jouer et à chanter ses chants. Il a dû chanter son numéro 8. Quand je contemple la lune et les étoiles que tu as disposées, je dis, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme que tu le visites. Il a certainement chanté le numéro 19 aussi. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue annonce l'ouvrage de tes mains. Une nuit l'a fait connaître à l'autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de langage. Toutefois, le roi est entendu. Il a certainement aussi chanté le grand psaume 104. Mon Dieu, tu es merveilleusement grand. Tu es revêtu de majesté, de magnificence. Tu te vêts de lumière comme un manteau. Puis il décrit tous les animaux, toute la création. Et puis il dit, mon Dieu, tu as fait toute chose avec sagesse. La terre est pleine de ta gloire. Les savants ont touché la réalité de Dieu dans la création. On a dit un de ces jours que peu de sciences éloignent de Dieu, mais beaucoup de sciences rapprochent de Dieu. Et je vous lis quelques témoignages de savants qui ont été impressionnés par le chef-d'œuvre de Dieu. Kepler, astronome, 1571, que Dieu est grand, grande est sa puissance, cieux, soleil, lune, étoiles, louez-le dans le langage qui vous est donné, mon Seigneur, mon Créateur, la splendeur de tes œuvres. Je voudrais l'annoncer aux hommes autant que mon esprit limité peut la comprendre. Copernic, fondateur de la mondiovision moderne, 1473. Qui, vivant en contact intime avec l'ordre le plus parfait et avec la sagesse divine, ne se sentirait pas poussé aux aspirations les plus sublimes? Qui n'adorerait l'architecte de toutes choses? Isaac Newton, 1643, fondateur de la physique théorique classique. Ce que nous savons est une goutte. Ce que nous ignorons est un océan. L'incomparable disposition et harmonie de l'univers, tout cela n'a pu se faire que selon les plans d'un être éternel doué de sagesse et de puissance. Linné, fondateur de la botanique systématique. J'ai vu passer 1707. J'ai vu passer dans la création, tout près, le Dieu éternel, infini, et je suis tombé à genoux. Gauss, 1777, un des plus grands mathématiciens et scientifiques allemands. Lorsque notre dernière heure aura sonné, ce nous sera une joie indicible de voir disparaître le voile obscur qui couvrait nos yeux. Et enfin, Werner von Braun, 1927, fabricant allemand-américain de fusées spatiales. Par-dessus tout, revient à Dieu l'honneur d'avoir créé le grand univers que l'homme de science pénètre et étudie de jour en jour avec une profonde adoration. C'est pas beau? Bon, nous allons chanter, faire une petite pause et nous allons chanter dans le cantique 208, la strophe.
Thank you.
Nous continuons. Donc, révélation progressive de Dieu par la création, par les prophètes, par Jésus, la parole faite chair. Par les prophètes, nous dit le chapitre premier de l'Épître aux Hébreux. Quand nous évoquons ce mot de prophète, nous pensons à des hommes qui ont prédit l'avenir. Certes, les prophètes ont aussi prédit l'avenir, mais ce n'était pas leur seule mission. Prophète, en hébreu, ça veut dire qui parle pour un autre. Les prophètes étaient les messagers de Dieu. On a dit les haut-parleurs de Dieu. Ils répétaient « Ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. » Et les prophètes avaient quatre grands sujets, pour ainsi dire. Premier sujet, il disait que l'obéissance à la loi de Dieu, à ses commandements, conduit à la bénédiction. Deuxièmement, que la et ça, il le disait, on peut dire parfois, il le tonnait, que la désobéissance à la loi de Dieu, l'oubli de Dieu, conduit au jugement et à la malédiction. Troisièmement, il disait que la confession du péché et le retour à Dieu conduit à la restauration. Et quatrièmement, les prophètes annoncent le Messie, ses souffrances, sa résurrection, ses gloires et les gloires de son peuple Israël. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas aperçu l'Église. L'Église, comme dit Paul, c'était un mystère caché dès les siècles en Dieu qui est réservé pour le Nouveau Testament. Peut-être en filigrane, nous voyons peut-être dans ces sept femmes une image de l'Église. Mais encore, c'est encore la lumière du Nouveau Testament que nous pouvons discerner cela. Les prophètes n'ont pas vu cela. Les prophètes, si on accepte Enoch, dont la prophétie ne nous a pas été conservée, de Moïse à Malachie à Jean le Baptiseur. Tous ces prophètes ont souffert parce que l'Israël rebelle ne supportait pas la voix des prophètes qui se lisait chaque sabbat. Et même les prophètes ont été assassinés. Le Seigneur, Jésus le dénonce d'ailleurs dans l'Évangile. Vous avez bâti les tombeaux des prophètes que vous avez assassiné. Ça nous ramène à la parabole des vignerons. Le maître envoie ses serviteurs, les prophètes, pour recueillir du fruit en Israël. Mais le fruit, c'est une métaphore. Ça veut dire du plaisir, de la joie dans son peuple. Dieu voulait trouver de la joie dans son peuple. C'est ça le fruit. Mais voilà qu'ils ont tué ces serviteurs que Dieu a envoyés pendant combien de siècles de Moïse à Malachie? Que va faire Dieu? Il aurait pu abandonner cette ville, cette vigne d'Israël. On a des expressions touchantes et forte aussi, je les ai hachés par les prophètes. C'est en parole humaine aussi, me levant de bonne heure et les envoyant. Dieu a tout fait, en vain. Cette vigne, elle a produit des raisins aigres. Que pouvait faire Dieu? Abandonner la vigne. la laisser fouler aux pieds par les nations, comme ça a eu lieu dans la déportation en Assyrie et à Babylone. Eh bien, vous savez ce qu'a fait Dieu. Il a dit, j'ai encore un fils bien-aimé, je leur l'enverrai. Lui, le dernier. Et on a cette parole touchante qui est un petit peu humaine. Peut-être auront-ils du respect pour mon fils ? Et je pensais, en envoyant son fils, Dieu, à ces meurtriers des prophètes, Dieu a pris un risque énorme. C'est parler d'une façon humaine. Dieu n'a pas pris de risque. Il savait exactement, justement, la beauté de l'amour de Dieu, c'est qu'il savait exactement l'accueil qu'aurait son fils quand il arriverait dans la vigne. Celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Il nous a parlé dans le Fils. Alors, c'est pas tout à fait par le Fils. Il a parlé par les prophètes, mais il nous a parlé en Fils, c'est-à-dire d'une manière spéciale, très spéciale. Si vous saviez qu'il y a des meurtriers dans une ville et que d'autres ont été envoyés pour essayer de pourparler avec ces gens violents, est-ce que vous enverriez votre fils ou votre fille là-bas? Mais ça serait une folie. Et c'est ce qu'a fait Dieu. Il savait exactement comment traiterait son fils. La parole faite chair. Nous allons chanter un cantique. Cette section est courte. Nous allons chanter le 158.
Oh, yeah.
Nous continuons avec cette troisième partie assez importante, très importante. Jésus-Christ caché dans l'Ancien Testament. La personne de Jésus est tellement importante pour Dieu que il a voulu des siècles avant sa venue sur la terre, le plus grand événement de l'histoire des hommes, il a voulu en parler à un peuple. Il a voulu remplir ses écritures de l'Ancien Testament de cette personne de Jésus. Alors, je vais essayer de mémoriser ces grands passages messianiques que nous connaissons quand même assez bien pour ne pas avoir à feuilleter trop ma Bible et pour gagner un peu de temps. Je crois que, excepté ce terme de Dieu, Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, déjà là, Dieu le Fils est caché dans ce Dieu qui a créé. Peut-être la première image, c'est la lumière, créée au premier jour. Jésus, quand il viendra sur la terre, dira deux fois « Je suis la lumière du monde ». Ce phénomène que les hommes n'ont pas fini de sonder, la lumière, nous apporte la lumière sur Dieu, comme aussi il braque le projecteur sur notre état de pécheur. Ensuite, c'est un peu plus loin, c'est le soleil, le grand astre du jour, que nous ne pouvons pas regarder en face sans que nos yeux soient brûlés en quelques secondes. Image de la gloire messianique de Jésus. Vous vous souvenez, sur la montagne de la Transfiguration, dans son chemin de douleur, Jésus a eu deux moments où il y a eu une anticipation de sa gloire royale sur la Sainte Montagne et le jour des rameaux, acclamé par le Père sur la Sainte Montagne et acclamé par son peuple le jour des rameaux. Et sur la Sainte Montagne, son visage était comme le soleil. Et Apocalypse 1 ajoute « quand il luit dans sa force ». Nous avons ensuite Adam. Et là, je n'invente rien. Je cite l'apôtre Paul en Romains 5. Adam était une figure de celui qui devait venir. Évidemment, Adam avant la chute. Comment se termine le premier chapitre de la Genèse ? Par la vision d'un grand dominateur. Adam est capable de donner des noms à tous les animaux et il lui est dit « dominer sur les œuvres de la création ». Dans le psaume 72, le seul qui écrit Salomon, il est dit « il dominera d'une mer à l'autre ». Et dans le psaume 110, le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament, tu l'as fait asseoir à ta droite, tu l'as fait dominer sur l'œuvre de tes mains, et tu as mis tous ses ennemis pour marchepied de ses pieds. En Daniel 7, nous avons ce fils d'homme qui s'avance vers l'ancien des jours, et on lui donna la domination afin que tous les peuples et les peuplades le servent. Est-ce que Adam domine seul? Non, il domine avec Ève, dominée au pluriel. Adam, Ève, dont la formation sera explicitée dans le chapitre 2. Chapitre 2, et Ève est une image de l'Église qui dominera dans le monde à venir avec le Seigneur Jésus comme le roi. dans le chapitre 2, ne nous est-il pas permis de voir dans cette blessure cette côte enlevée d'Adam et ce sommeil, ce profond sommeil qui tombe sur lui, l'image de la blessure de la croix et du sommeil de la mort, pour en tirer Ève, l'Église. Il n'y a pas d'Église. L'Église n'existerait pas sans l'œuvre de la croix et sans le sommeil de la mort et la résurrection. Alors qu'il n'y a aucune corrélation en français entre homme et femme, en hébreu, oui, il y a un jeu de mots, Ish et Isha. On voit bien que Isha est une partie de Ish. Et cette femme, elle est donnée à Adam. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, disons-nous, dans la prière sacerdotale de Jean 17. Mais l'inverse est aussi vrai. Adam est donné à Ève. Et ça, c'est le dernier verset d'Éphésiens 1. Il l'a ressuscité, il l'a placé au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir, et il a assujetti toute chose sous ses pieds, et l'a donné pour être chef à l'Assemblée, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église a un grand chef, puisqu'il est chef sur toute chose. Après la chute, évidemment, Adam n'est plus une image de celui qui devait venir. Par contre, là, nous avons la première promesse de la Bible. La semence de la femme te brisera la tête et toi, tu lui briseras le talon. Devant les protagonistes de ce drame de la chute, Dieu fait cette promesse. La semence de la femme et non pas la semence de l'homme. La route sera longue jusqu'à Bethléem, semée d'écueils. C'est cette route que nous allons suivre patiemment en notant les bornes de Dieu et de sa fidélité à son projet. Et Dieu dit, je mettrai inimitié entre ta semence et sa semence. Il faut bien faire attention. Donc le serpent a eu une semence, et cette femme aussi. Et dorénavant, à partir de ce moment-là, dans l'histoire du monde, vous aurez deux semences ou descendances, en hébreu c'est le même mot. Vous aurez deux descendances. Et encore aujourd'hui, en 2023, vous avez deux descendants. La descendance du serpent, c'est terrible à dire, et la descendance de la femme, de ceux qui ont la foi, de cette chaîne du Messie qui a traversé les siècles. Et la première fois que cette animosité, cette inimitié se manifeste, c'est quand Caïn tue Abel. Abel était le premier maillon de la semence de la femme. Caïn est l'antichrist. Et alors que le sang d'Abel crie vengeance vers le ciel, le sang de Jésus-Christ parlera mieux que le sang d'Abel. Il parlera de pardon, de grâce et de miséricorde et de salut. Hébreux 13. Nous arrivons, nous avançons un petit peu. Non, j'ai oublié. Adam et Ève ont confessé tous les deux leur faute. Si vous lisez bien le texte, ils disent « j'en ai mangé », en louvoyant un peu, d'accord. Mais ils sont finis par confesser. C'est ça la confession. Et à ce point, ils ont obtenu miséricorde. Tant il est vrai que celui qui confesse ses transgressions et les abandonne obtient miséricorde. Mais il faut un substitut, il faut que le châtiment tombe sur quelqu'un. Il faut que la justice passe. Et elle passe sur deux animaux que Dieu tue dans sa belle création pour revêtir Adam et Ève de ses vêtements de peau. Le prophète Isaïe dira plus tard, il m'a revêtu de la robe de la justice et des vêtements du salut. Nous sommes revêtus de la justice de Dieu moyennant l'œuvre de la croix. Dieu voit ce vêtement. Il voit plus notre état, il voit ce vêtement qu'il nous a lui-même donné comme la robe. On l'a dit souvent, la robe du fils prodigue n'était pas dans son héritage. C'est le Père qui l'a donné. Nous avançons avec Noé. Noé est plutôt un type du Messie qui accompagnera le résidu juif pendant la grande tribulation. C'est sept personnes, le Messie et sept personnes, le résidu complet. Romains 9, le résidu seul sera sauvé. Romains 11, tout Israël sera sauvé. Donc tout Israël, c'est ce résidu. En français, ça a une mauvaise connotation, ce mot résidu, mais en fait, c'est pas des ordures. C'est quelque chose d'excellent, qui est pour Dieu. Mais ils devront passer par la grande tribulation, imagée par le déluge. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Les rivières ne te submergeront pas. Et on peut aussi voir dans l'arche une image du salut en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. C'était le seul moyen d'être sauvé, rentrer dans l'arche. Et tout cela débouche sur une terre purifiée par le jugement, une terre millénaire sur laquelle Noé offre des holocaustes et Dieu accepte flaire une odeur de repos en note. Dieu ne se repose pas dans le jugement. Selon Isaïe, c'est son travail inaccoutumé, son œuvre étrange, mais il se repose dans l'œuvre de la croix. Nous avançons au chapitre 22, ce grand chapitre que nous connaissons bien, où Abraham doit sacrifier son fils Isaac, celui qu'il aime. Il ne doit pas l'épargner. Le livre de Malachie nous dit que on épargne un fils qui nous sert. Eh bien, Dieu ne l'a pas fait. Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Romains 8, sauf erreur. Mais alors que pour Isaac, il y avait un substitut, ce bélier retenu à un buisson par les cornes, à l'heure de la croix, il n'y a pas eu de substitut. C'était Jésus qui était le substitut, notre substitut. Il nous remplaçait sous le jugement de Dieu. Et Abraham a reçu Isaac en figure par la résurrection. C'est ce que Hébreux 11 nous dit. Et ce fils en figure ressuscité reçoit tout l'héritage du Père. Tout ce qu'Abraham possédait, il le donne à Isaac. Et deux fois dans l'évangile de Jean, nous avons cette parole, il a mis toute chose entre ses mains. C'est ça. Entre les mains de celui qui s'est sacrifié un jour sur le mont Morija, sur le mont Golgotha. Et c'est intéressant et émouvant il y a deux passages dans la Genèse, dans l'histoire d'Isaac, où il est parlé de la frayeur d'Isaac. Et je pense que c'est au moment où il était couché sur l'autel avec le couteau pointu à quelques centimètres de sa poitrine. C'est effrayant. Et dans l'évangile de Marc, il est dit que le Seigneur Jésus à Gethsémané a été saisi d'effroi. Et dans un psaume, les frayeurs du Sheol m'ont atteint. C'était effrayant. Jésus n'avait pas peur de mourir. Non, non. Parce qu'il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Mais ce qui l'effrayait, c'était ce jugement de Dieu qui allait l'atteindre à notre place. Alors après, nous avons cette belle histoire que nous connaissons bien. Le serviteur d'Isaac, Eliezer, qui s'en va à Padan-Aram chercher Rachel une femme pour mon fils, une épouse pour mon fils, répète Dieu. Je veux une épouse pour mon fils. Pour celui qui a souffert sur le mont Golgotha, je veux lui donner une épouse. Et alors, cette femme, dans la foi, dit « j'irai ». Et elle entreprend ce grand voyage d'environ 1000 kilomètres de Padan-Aram jusqu'à Hébron pour rencontrer celui qu'il aime et qu'elle n'a jamais vu. « Quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez », dit l'apôtre Pierre. Et pendant le long de la route, fermant l'oreille à tout vain bruit, mon âme en silence écoute la douce voix de ton esprit. J'espère que ce soir, nous allons percevoir ce ministère de l'esprit. Parce que ferait l'Église sans cet accompagnement? Qu'aurait fait cette femme pendant ces 1000 kilomètres à dos de chameau, sous la chaleur intense, dans la poussière, contournant le grand désert d'Arabie pour arriver enfin au grand désert, au grand oasis de Damas, et puis après, plus loin, jusqu'aux montagnes d'Éphraïm, etc., et puis descendant vers le sud. Jamais elle sera arrivée. Mais jamais l'Église arriverait un jour vers son époux sans l'assistance de l'Esprit. Mais Jésus a dit, il sera avec vous éternellement. Et quand il a résumé le service de l'Esprit, en Jean 15 ou 16, il a dit, celui-là me glorifiera. Il prendra des choses qui sont à moi et vous les annoncera. Et ça sera bientôt la suprême rencontre. Nous allons apercevoir l'homme qui est sorti dans les champs. Il va venir à notre rencontre. Je continue dans la Genèse. Alors, des chapitres 37 à 50, nous avons cette merveilleuse histoire de Joseph qui a ému notre enfance et qui nous émeut encore aujourd'hui. Le fils bien-aimé du père qui est envoyé vers ses 10 frères. Les Juifs, en figure les Juifs, et qui est l'animosité, qui rencontre l'animosité de ses frères, cette animosité, cette jalousie qui va devenir cruelle quand Joseph va parler au travers de ses songes de sa gloire future. Vous vous souvenez, dans la nuit du jeudi au vendredi, quand Jésus était devant le tribunal du Sanhédrin, quand lui aussi il a parlé de sa gloire future, quand il a dit « Dorénavant vous ferez le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande gloire », le sacrificateur a déchiré sa robe. Il dit « Qu'avons-nous besoin de témoins ? Vous avez oui, son blasphème !» Et ils dirent tous « Il mérite la mort ». Joseph est jeté dans le puits, image de la croix. Second tableau, il est envoyé en esclave, comme esclave en Égypte, parmi les nations. Et là, il est accusé par cette femme, injustement, et il est jeté dans la fosse. Et il restera en prison pendant 2 ans. Et ces deux tableaux pour Jésus se superposent par cette parole de Paul, de Pierre, dans le livre des Actes, dans un de ses discours, « Contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, se sont assemblés Hérode et Pilate avec les nations et les fils d'Israël. » Tout le monde est représenté. Et tout le monde est contre Jésus. Mais par des voies providentielles, Joseph est tiré de la fosse et parvient au sommet de la gloire. On met une couronne, un collier d'or à son cou, enlevé de byssus, on met un anneau d'or à son doigt. Et on crie devant son char, qu'on s'agenouille. Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploient tous nous, des êtres célestes, terrestres et même infernaux, et que tous, toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Joseph, il lui est adjoint Asnath, qui peut être aussi vu comme une en filigrane, à la lumière du Nouveau Testament, comme une figure de l'Église avec ses deux fils, Éphraïm et Manassé. Le Seigneur, le Dieu m'a fait oublier toute ma peine. Mettez ça dans la bouche du Seigneur quand il regarde l'Église, quand il regarde chacun de nous ici et l'Église tout entière, il dit « Dieu m'a fait oublier toute ma peine. J'ai fructifié dans le pays de mon affliction. » Et Joseph, une fois dans cette position glorieuse, par des concours de circonstances aussi, il reprend contact avec ses frères. Et là, un comportement de sagesse, il travaille dans le cœur de ses frères jusqu'à ce qu'ils disent « Certainement, nous sommes coupables à l'égard de notre frère. Nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce et cette détresse, elle est venue sur nous. » Et c'est ce que le résidu juif, pendant la grande tribulation, donc la deuxième moitié de la 70 semaines de Daniel, connaîtra, dira, quand ils repenseront, quand ils comprendront qu'ils ont crucifié leur Messie, ça sera terrible. Nous allons voir des versets. Ils diront aussi, nous sommes coupables à l'égard de notre frère. Cette détresse est venue sur nous. Cette grande tribulation, cette détresse de Jacob. Et après, au terme de cette demi-semaine que Dieu abrégera par miséricorde encore pour son peuple, qui est broyé par l'Antichrist, eh bien, il se fera connaître à ses frères. Je suis Joseph. Et il leur pardonnera. Et il leur dira aussi, approchez-vous. Nous arrivons à l'Exode. L'Exode, le grand livre de la rédemption. De la rédemption que nous avons maintenant dans le Christ Jésus. Éphésiens 1. Nous avons l'agneau pascal, image bien connue du Seigneur Jésus, l'agneau de Pâques, sacrifié, dont le sang était mis sur les linteaux et les poteaux de la porte, qui, ce sang, protégeait la maison. L'ange destructeur voyait le sang et passait par-dessus les Israélites. D'ailleurs, le mot Pâques veut dire passer par-dessus. J'aime beaucoup cette expression d'Hébreux 13, la puissance du sang de l'Alliance éternelle. La puissance du sang. Là, on voit bien sur les linteaux de la porte. C'est pas un sang ordinaire. Que le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons aussi, alors, dans le développement de l'Exode, il y a beaucoup de choses, mais je retiens l'arche. On a dit quelquefois qu'au point de vue personnage, Joseph était le plus beau et le plus complet type de Jésus, et l'arche, en tant qu'objet, était le plus beau. Fait de bois de sittim, son humanité, plaqué d'or à l'intérieur, à l'extérieur, sa divinité. Dessus, le couvercle, tout en or. Son œuvre devait être toute divine, mais elle était supportée par un homme. Nous n'expliquons pas cela, mais nous le retenons comme une vérité fondamentale. Il fallait que Jésus soit un homme pour souffrir et mourir, et il fallait qu'il soit Dieu pour expier nos péchés. Ça, c'est fondamental. Il fallait qu'il soit un homme. Parce que l'apôtre Jean s'élève fortement et dit, si quelqu'un ne confesse pas Jésus venu en chair, il n'est pas de Dieu. Alors, dans l'histoire de l'Église, il y en a certains qui ont nié la divinité et d'autres qui ont nié son humanité. Ben, il faut maintenir les deux, sans les expliquer peut-être, mais les deux sont fondamentaux. Et là, l'image du bois et de l'or sont très beaux. Et alors, tous les sacrifices de l'ancienne alliance, alors les holocaustes, sacrifice de prospérité, sacrifice pour le péché, l'agneau du matin, l'agneau du soir, des nouvelles lunes, l'agneau, les taureaux et béliers de consécration, lors des dédicaces. Tous ces sacrifices parlaient à l'avance du sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, du seul sacrifice. Ces sacrifices de l'ancienne alliance devaient toujours se renouveler. Et ils étaient nécessaires comme une ombre de ce grand sacrifice de la croix. Alors chaque fois qu'un Israélite avait péché par erreur, hein, si c'était par fierté, il n'y avait pas de sacrifice. Par erreur, il offrait son sacrifice, confessant ses péchés sur la tête de l'animal. C'était une figure de la substitution. Et une fois l'an, au grand jour des propitiations, le sang des boucs et des taureaux était porté sur le propitiatoire. Et ces gouttelettes de sang restaient toute l'année sous l'ombre des chérubins, sur la présence de Dieu. Jésus a traversé les cieux, porteur de son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Dieu voit en permanence l'œuvre de Jésus, en permanence, que nous le ressentions ou pas, ça ne change rien du tout. Et c'est à cause de cette vision de Dieu sur le sacrifice de Jésus que nous sommes en permanence dans la faveur de Dieu. Pas à cause de notre service, de nos bonnes œuvres, en tant que chrétien même. Non, non, pas du tout. Je passe au livre suivant, le livre du Lévitique, alors je viens d'en parler, le livre des Nombres. On peut penser au rocher frappé, ça c'est dans l'Exode, mais ça il y a une répétition dans le livre des Nombres. Le rocher frappé, d'où est découlé des eaux, c'est une image du Seigneur Jésus. On me dirait, c'est pas très évident, mais Paul dit cette parole claire. Le rocher qui les suivait était le Christ. Impressionnant. Il a été frappé à la croix pour que nous ayons l'eau de l'Esprit à la Pentecôte. Il y a aussi la manne, dans le livre de l'Exode, et dans le livre des Nombres, cette nourriture du désert, mais Jésus est le pain de vie, descendu du ciel, qui donne la vie au monde. Il y a dans le livre des Nombres aussi, au chapitre 17, on en a parlé ces derniers temps, le bâton d'amandier d'Aaron qui a bourgeonné en une nuit et produit et mûri des amandes, qui nous parle de la résurrection de Jésus. Nous arrivons dans le Deutéronome. Deutéronome, je ne retiens que cette expression. Moïse dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi et vous l'écouterez. Déjà une annonce de la venue de Jésus. Ensuite, Josué, vous souvenez, Josué 3 ou 4, la petite arche qui était porté par les sacrificateurs et qui s'est avancé sur le bord du Jourdain. Et au moment où les pieds des sacrificateurs ont trempé dans les eaux du Jourdain, le Jourdain s'est fendu alors qu'il regorge par-dessus tous ses bords tout le temps de la moisson. Image de Jésus qui fend les eaux de la mort pour ouvrir un chemin pour le passage des rachetés. J'aime bien cette expression du prophète Ésaïe, pour ouvrir un chemin pour le passage des rachetés. Tout Israël passe. Et tout le peuple de Dieu, tous les croyants vont passer au travers de la mort parce que Jésus est sur l'autre rive et il a déjà vaincu la mort. Il a déjà franchi. Et c'est la petite arche qui passe en tête et qui ouvre un chemin de vie. Nous arrivons à David. David, grande figure du Seigneur Jésus. Comment commence l'évangile de Matthieu? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham après. Qu'est-ce que l'ange dit à Marie? Il sera grand et il sera appelé le fils du Très-Haut. On lui donnera le trône de David et il règnera sur la maison de David à toujours. David a vécu, a souffert pendant 20 ans, traqué de caverne en caverne, de désert en désert, par son ennemi implacable, Saül. Et de ces 20 années de souffrance est sorti les plus belles paroles des psaumes messianiques. David a écrit 75 psaumes sur 150. Et il a parlé dans ses psaumes des souffrances, de la résurrection de Jésus et de ses gloires. Ses souffrances, bien sûr, nous viennent tout de suite à l'esprit le grand psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand est-ce que vous croyez que David a poussé ce cri? Personnellement, je crois que c'est tout à fait à la fin de sa période d'errance, quand il revient à Tsiklag et qu'il voit que la ville a été brûlée par le feu, ses femmes sont emmenées captives, ses enfants, les femmes de ses hommes, et chacun avait l'amertume dans l'âme. Et il dit, David fut en une grande détresse. Et pour combler la mesure, ces 400 braves de la caverne d'Adullam, et après 600, se retournent contre lui et veulent le lapider. C'est la première fois dans toute sa vie d'errance que David est complètement seul. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il a poussé ce cri vers Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Que le Christ poussera 1000 ans plus tard sur la croix du Golgotha dans cette parole centrale des 7 paroles de la croix. On peut penser aussi au psaume 69. Je suis enfoncé dans une boue profonde et il n'y a pas où prendre pied. L'opprobre m'a brisé le cœur. Dans le psaume 40, mes iniquités m'ont atteint. Je ne puis les supporter. Mais, et puis dans le psaume 55, quand son ami Achitophel tourne sa veste et et prend le parti d'Absalom. Et il incarne Judas. Si ça avait été, si tu étais un ennemi, je l'aurais supporté, mais toi, mon intime ami qui a levé son talon contre moi. Est-ce que nous pensons à la souffrance de Jésus trahi par Judas? Eh bien, David l'a vécu. Mais David a parlé aussi de sa résurrection. Dans le psaume 16, et là c'est clair, comme l'eau du torrent, quand l'apôtre Pierre dit, David a dit de la résurrection du Christ en la prévoyant qu'il n'a pas été laissé dans le Hadès et que son sein n'a pas vu la corruption. Au psaume 22, tu m'as répondu d'entre les cornes des buffles. Psaume 40, j'ai attendu patiemment l'Éternel et il s'est penché vers moi. Et il a entendu mon cri. Il m'a fait monter hors du puits de la destruction, hors d'un bourbier fangeux. Il a établi mes pieds sur un roc, le roc de la résurrection. Il a parlé aussi de ses gloires, des gloires de Jésus. Psaume 21. Tu m'as prévenu par des bénédictions excellentes. Tu l'as prévenu par des bénédictions excellentes. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin. Il t'a demandé la vie. Tu la lui as donnée, une longueur de jour pour toujours et à perpétuité. Dans le psaume 24, il est ce roi de gloire pour lequel les portails éternels doivent s'élever parce qu'il a été puissant dans la bataille de la croix. Psaume 110, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds. Et cette vie de David, cette vie de souffrance qui a donné des mots à la souffrance de Jésus culmine dans le royaume de Salomon, le royaume de la gloire et de l'homme sage et riche. C'est un règne de justice, de paix et de joie. Toujours ces trois dans le même ordre. Parce qu'il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de joie sans justice et paix. Mais alors que le règne de 1000 ans de Jésus-Christ, au terme de ces 1000 ans, il remettra le royaume dans les mains de Dieu le Père, intact, aussi beau qu'il l'a trouvé, à la fin des 1000 ans, celui de Salomon est déchiré en deux à l'image du manteau d'Akija qui vient lui annoncer cette déchirure. Dorénavant, vous avez 10 tribus au nord et 2 tribus au sud. Les 10 tribus au nord, avec capitale Samarie, qui iront de Carib en Sila, gouvernés par 19 rois, tous impies, ira à la catastrophe de la déportation en Assyrie. Judas et Benjamin, lovés sur les collines arides de Judée, selon la prophétie de Michée, je crois, marchent encore avec Dieu. C'est qu'il est gouverné par quelques rois pieux, comme Asa, Josaphat, Joas, Jotan, Ézéchias et celui que j'appelle le dernier flambeau, Josias. Ces rois pieux essaient d'extirper l'idolâtrie accrochée au cœur du peuple élu. Font des réformes. Mais finalement, presque 130 ans après les 10 tribus, c'est la catastrophe, c'est la déportation à Babylone. Et là, c'est une rupture terrible dans l'histoire d'Israël. Et il semble que le projet divin capote. Il semble que la descendance de Satan, vous savez, triomphe. Et que jamais le Messie va naître à Bethléem. Ils sont à Babylone, ils sont en Assyrie. Dieu veille sur son projet. Comme il a, j'aime beaucoup cet épisode de la vie du petit Joas. La reine Nathalie a fait périr toute la semence royale. Encore une attaque du diable contre cette chaîne du Messie. Et cette chaîne, elle tient par un petit maillon, le petit Joas, qui est gardé dans la maison du sacrificateur Jéhoiada avec sa femme Jéhosheba. Et la septième année, ils font sortir le petit roi. Il dit « Vive le roi !» Et le règne, le royaume d'Athalie tremble et s'écroule. Dieu a l'œil sur son projet et fait revenir de la captivité une tribu. Il faut qu'il y ait une tribu pour accueillir le Messie. Mais là, j'anticipe. Et donc, dans ces derniers rois de Juda, la voix prophétique s'intensifie. Et nous avons la grande prophétie d'Ésaïe sur laquelle il faut quand même s'arrêter. Ceux qui lisent le prophète Ésaïe en hébreu nous disent que c'est un chef-d'œuvre littéraire. Ésaïe, c'est un peu le Cicéron hébraïque. Une langue magnifique. Déjà en français, c'est beau. Mais outre cet aspect, c'est le prophète qui nous parle le plus abondamment de Jésus, de sa venue, de ses souffrances, de ses gloires. C'est Jean qui dit « Ésaïe a parlé de moi ». On l'a appelé le cinquième évangile. Alors, je vais vous lire les grands passages messianiques que tout le monde connaît. Il y en a une douzaine. Le premier, au chapitre 7. Dieu dit à Akaz, ce roi impie, « Demande un signe. » Il dit, « Je ne veux pas demander le signe. » Dieu dit, « Moi, je vais t'en donner. » La Vierge concevra et enfantera un fils, on appellera son nom Emmanuel. 7 siècles à l'avance, le prophète avait annoncé la venue de Jésus. Emmanuel, Dieu avec les hommes. Mais vous vous rendez compte, Dieu va venir sur cette petite tête d'épingle qui fonce dans l'espace. Ce grand Dieu que l'univers ne peut pas contenir, il va devenir un homme. Grand mystère, dont la piété se nourrit, dit Paul à Timothée. Un peu plus loin, au chapitre 9, nous avons 2 prophéties. Terre de Zabulon, terre de Nephtali, chemin de la mer au-delà du Jourdain, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Un peu plus loin, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Le gouvernement sera sur son épaule. On l'appellera conseiller, prince de paix, père éternel. À l'accroissement de son empire, il n'y aura pas de fin. Nous, au chapitre 11, vous connaissez le chapitre 11, il est parlé du règne. Il jugera en justice les misérables. L'agneau et le loup paîtront ensemble. Le lion mangera de la paille comme le bœuf. L'enfant sevré s'ébattra sur l'antre de la vipère. On ne fera pas de mal dans ma sainte montagne. Il y aura dans ce jour-là une racine d'Isaïe, se tenant là comme une bannière des peuples, et les nations la rechercheront et son repos sera gloire, cité par Paul en Romains 15. Un peu plus loin, au chapitre 28, voici, je pose en Sion un sûr fondement, une pierre éprouvée, une pierre de prix. Celui qui se fie à elle, ne sera pas confus, cité par l'apôtre Pierre, hein, Pierre 2. Nous arrivons au 40. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, une route pour notre Dieu. Que les collines soient abaissées, que les vallées soient élevées, que les sentiers raboteux deviennent une plaine, et que toute chair verra le salut de Dieu, traduit Luc. 42. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme trouve son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il ne criera pas dans la rue. Il n'éteindra pas le lin qui brûle à peine. Il fera valoir la justice et le jugement. 49. Je lui donnerai pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. Chapitre 52. Mon serviteur agira sagement. Il sera exalté et placé très haut. Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement son visage était défait, plus que celui d'aucun homme. Ainsi, il fera tressaillir beaucoup de gens. Des nations fermeront leur bouche en le voyant, car ils verront ce qui ne leur a pas été raconté. Et là, étonnement a deux sens. Soit l'émerveillement, soit frappé de tonnerre, commotionné. D'ailleurs, André Chouraki, le roi de l'interprétation littérale, ultra-littérale, traduit par frappé de tonnerre. Les nations seront frappées de tonnerre, sont commotionnées. Elles diront quoi? Le rabbi de Nazareth, celui dont le visage était autrefois défait, celui qui a 30 ans en paraissait 50, est maintenant le maître du monde, seront commotionnés. Celui dans la main duquel il y avait ce roseau ridicule, cette main tremblante, maculée de sang, après le supplice du fouet, cette main affaiblie, tremblante, tenant ce roseau ridicule, tiendra un jour le sceptre du monde. Et nous arrivons au grand chapitre 53, cité 6 fois dans le Nouveau Testament. On a dit qu'avec ces 6 citations, on pourrait pratiquement reconstituer Ésaïe 53. C'est ce rejeton qui sort d'une terre aride. C'est cet agneau qui n'ouvre pas la bouche. Plus étonnamment, c'est celui que Dieu se plaît à meurtrir. Mais celui qui verra une descendance, celui qui partagera le butin avec les forts. Nous arrivons, et il y a encore le 55. Je vous donnerai les grâces assurées de David. Je voudrais bien savoir lequel d'entre nous, lisant ce verset, dire, ah, mais oui, c'est un verset vraiment clair qui nous parle de la résurrection de Jésus. Pas sûr. Mais c'est pourtant ce que Paul dit à Antioche de Pisidie. Dans son discours, il dit qu'il atteste la résurrection de Jésus. Par ce verset, il vous donnera les grâces assurées de David. Alors, comment comprendre? Eh bien, sans la résurrection, aucune grâce, ni pour Israël, ni pour nous, ne serait assurée. Et Paul dans le chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, fait l'apologie de la résurrection et montre bien que s'il n'y a pas la résurrection, tout s'écroule. C'est la clé de voûte du christianisme. Et Satan attaque ça depuis le début. Il a fait courir ce mensonge que les disciples avaient pris le corps. Il y a quelques années, il y a eu une rumeur en Israël, soi-disant on avait trouvé la tombe de Jésus avec ses ossements. La belle affaire. Ah ben là, la corde est grosse. Mais si Jésus n'était pas ressuscité, nous pourrions repartir ce soir à la maison tous en pleurs, comme des désespérés, et j'aurais perdu mon temps. Ah, la résurrection de Jésus, c'est par cette résurrection que tout nous est assuré. Et là, nous arrivons au 61, et là, il est temps que je lève le suspense et que par rapport à ce vilain paquet là qui vous intrigue dès le commencement. Ça, c'est, vous voyez, c'est un peu rustique, une toile de chanvre, de jute, avec une corde en chanvre. Oui, mais c'est un paquet qui a 21 siècles. Qui dit mieux? C'est le rouleau d'Ésaïe. Alors, ne pensez pas que nous l'ayons ramené de Jérusalem, mais enfin, c'est un fac-similé du rouleau d'Ésaïe. De ce rouleau qui est à Jérusalem, enfin, maintenant il est caché, il fait 7,34 m de long et qui a été découvert dans les grottes de Qumran. Et c'est pas sans une certaine émotion que je prends ce rouleau. Parce que c'est exactement le même geste que Jésus a fait dans son petit village, le village de son enfance à Nazareth, il y a 2000 ans. Il a cherché le passage. Alors pour le chercher, il faut tourner. Et justement, la paracha de ce sabbat, c'était Ésaïe 61. Alors la paracha, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la portion de la Torah qu'on lisait à chaque sabbat pour couvrir en une année toute la Torah. Et justement, providentiellement, la paracha, c'était Ésaïe 61. Et Jésus a déployé le rouleau. Il a lu. Alors là, j'ai le texte en hébreu, mais je peux pas le lire en hébreu. Puis de toute façon, même si je savais l'hébreu, il n'y en a pas beaucoup qui comprendraient. Et Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel. » Il a coupé le verset 3 volontairement, parce que le verset suivant parlait du jugement, et Jésus était venu, comme il le dira plus tard, il est venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et il a rendu le rouleau à celui qui était de service, et Luc nous dit que dans cette assemblée d'hommes, tous les yeux étaient braqués sur lui, enfin arrêtés sur lui. Regarde, qu'est-ce qu'il va dire? Et il a dit, cette écriture est accomplie, vous l'entendant. Cette écriture qui avait été dite 7 siècles à l'avance s'accomplissait. Quand Jésus prononçait ces paroles, ça n'a pas convaincu les gens de Nazareth, parce que le moment d'après, ils veulent le précipiter de la falaise. Ils ne croyaient pas en lui. Ils disent, ouais, c'est le fils du charpentier. Et Jésus a dit cette parole douloureuse dans sa bouche. Nul n'est prophète en son pays. Au passage, enfin, puisque là j'ai sur le manche la Bible, enfin, c'est une carte SD, c'est dépassé, la nano-Bible est encore bien plus petite, mais entre ce support, et là il y a 21 siècles, mais c'est le même texte. La parole de Dieu demeure éternellement, les supports changent, mais elle ne change pas. Encore un verset dans Ésaïe 62. Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi. Après, nous passons à Jérémie. Jérémie, je ne donne qu'un verset qu'on lit quelquefois au culte, au chapitre 11. J'étais au milieu d'eux comme un agneau familier qu'on mène à la tuerie, et je ne savais pas qu'ils faisaient des complots contre moi, disant « Coupons l'arbre avec son fruit, afin qu'on ne se souvienne pas de son nom. Pourquoi nous persévérons dans la fraction du pain chaque dimanche ?» Parce que tous les efforts de Satan, c'est qu'on ne fasse plus mention de son nom, qu'on ne se souvienne plus de lui. Mais là, la partie est ratée. Parce que dans le monde entier, on se souvient de Jésus. Mais les efforts de Satan sont afin qu'on ne se souvienne pas de son nom. Et puis nous avons ces deux passages émouvants des Lamentations de Jérémie qui doivent résonner dans nos cœurs. N'est-ce rien pour vous qui passez par le chemin? Contemplez s'il y a une douleur comme ma douleur qui m'est survenue au jour où l'Éternel m'a frappé. Et puis un peu plus loin, chapitre 3. Je suis l'homme qui ai vu l'affliction par la verge de sa fureur. Il m'a amené dans les ténèbres et non dans la lumière. C'est contre moi qu'il a toujours tourné et retourné sa main. Nous arrivons à Ézéchiel. Ézéchiel, je ne retiens qu'un verset au chapitre 34. Vous vous souvenez qu'il est le berger qui prend soin de son troupeau. La blessée, je la banderai. La faible, je la fortifierai, etc. Nous arrivons au prophète Daniel. Daniel, vous vous souvenez de cette petite pierre détachée sans main qui brise la statue, qui brise les pieds de la statue dans le quatrième royaume. Quand Jésus est venu, c'était l'Empire romain. Et quand il reviendra pour régner, ce sera encore l'Empire romain, mais reconstitué. Cette bête d'Apocalypse 13, dont la plaie mortelle sera guérie. Et cette pierre, elle frappe la statue dans les pieds, elle broie tous ses empires et devient un royaume, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Un peu plus loin, je l'ai au chapitre 7, ce fils d'homme vient vers l'Ancien des Jours et on lui donna la domination afin que tous les peuples le servent. Et puis au chapitre 9, ce verset étonnamment clair. Le Messie sera retranché et n'aura rien. Un des rares passages, je crois, où il est parlé du Messie. Enfin, du Messie, ce mot, au moins en français. Après le prophète Daniel, nous avons le prophète Osée. Osée 11, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ce verset que Jésus a réalisé quand, avec ses parents putatifs, il est revenu d'Égypte où il s'était réfugié pour fuir la colère d'Hérode. Étonnamment, nous apprenons que Jésus est le vrai Israël de Dieu. On peut penser aussi à Jonas, au passage. Jonas, étonnamment, une image du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si on l'aurait trouvé celle-là. Parce qu'on aurait dit, oh non, monsieur, il est sur un chemin de désobéissance, il peut pas être un type du Seigneur. Mais il n'empêche que, comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et il est rejeté sur la berge, sur la plage, image de la résurrection. Et dans Jonas, d'ailleurs, il y a des versets impressionnants quant aux souffrances du Seigneur Jésus. Nous arrivons au prophète Michée. Lui, il dit le village où Jésus devait naître. Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les tribus de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines sont d'ancienneté dès les jours d'éternité. C'est clair. Nous arrivons au prophète Zacharie, au chapitre 11. Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel tu as été estimé par eux. C'est ce qu'on appelle un sarcasme, le prix magnifique, 30 pièces d'argent. Au chapitre suivant, ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé. Ils se lamenteront comme on se lamente de la mort d'un fils unique. Au chapitre suivant, chapitre 13, ils me diront, qu'est-ce ces blessures à tes mains, à tes pieds, celles dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis? Réveille-toi contre l'homme qui est ton compagnon, dit l'Éternel, frappe le berger et le troupeau sera dispersé. Estimez rien, percé, blessé, frappé. Nous arrivons à Malachie, le dernier prophète, dont on a dit que c'était le procès du formalisme. Israël est tombé dans une déchéance morale telle qu'il ne sait plus en quoi Dieu l'a aimé. En quoi nous as-tu aimé? Et puis, il est insolent. Il apporte des bêtes estropiées et il dit, en quoi te frustrons-nous? Et Dieu dit, ils ne me craignent pas. Mais au milieu de cet état terrible, il y a ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui pensent à son nom, ceux qui parlent, ces deux ou trois qui parlent l'un à l'autre. Et vous êtes demandé un jour de quoi ils parlaient, ces deux ou trois? Moi, je crois qu'ils parlaient du Messie qui allait venir. La petite flamme de l'espérance brûlait dans leur cœur et était entretenue par la voix des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Qu'est-ce que nous avons, nous aussi, pour soutenir notre foi? Rien d'autre que la voix des prophètes ou du Nouveau Testament ou de la parole de Dieu. Rien d'autre. C'est parce qu'il nous entoure qu'il va nous soutenir. Au contraire, le monde va nous effrayer. Mais ces deux ou trois avaient ces prophéties que je viens de montrer et ils les chérissaient dans leur cœur comme nous chérissons la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'autre appui. Et puis, Dieu a tout dit. Il a tout dit par les prophètes. Maintenant, il se tait. Et il va se taire pendant 4 siècles. Ils sont redoutables. Je ne connais pas beaucoup de choses aussi redoutables que les silences de Dieu. C'est éprouvant pour la foi. Quand Dieu n'agit plus, quand Dieu se tait, enfin, ça veut dire qu'il a tout dit. Et notre seule tâche, c'est de regarder ce qu'il a dit. Nous non plus, il n'y a pas d'autre révélation ultérieure. Il y en a qui disent qu'il y aura une révélation ou certains reçoivent une révélation au niveau de la parole. Non, non. Dieu a tout dit là aussi. On l'a dit quelquefois quand il a parlé dans le Fils, personne ne peut parler après le Fils. Israël s'abîme dans le silence des siècles. J'emploierai un anglicisme il y a un immense suspense. Tout à coup, Dieu déchire ce suspense et envoie un ange, l'ange Gabriel, dans une petite ville à Nazareth et annonce à Marie que le Messie va naître. 9 mois après, le ciel s'illumine au-dessus des bergers et dit « Je vous annonce un grand sujet de joie, car dans la cité de David vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » 8 jours après, et ceci vous a signe, c'est que vous verrez un petit enfant couché dans la crèche. 8 jours après, Jésus était dans les bras de Siméon. Siméon qui dit, mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples. Une lumière pour les nations et la gloire de ton peuple Israël. Siméon ne sera pas là pour écouter les paroles sublimes de Jésus. Il ne sera pas là pour voir ces miracles extraordinaires. Il ne sera pas là dans la chambre haute pour voir Jésus ressuscité. Il ne sera pas là dans la chambre haute au jour de la Pentecôte. Non, il sera mort depuis 30 ans. Mais, tenant le petit Jésus dans ses bras, l'enfant Jésus, il sait que le projet de Dieu est en marche et qu'il ira jusqu'au bout. Nous allons chanter un cantique 229. Terminer rapidement, la parole de Dieu dans la vie de Jésus. Déjà à l'âge de 12 ans, Jésus était parmi les spécialistes de la Torah et ils étaient étonnés de ses questions et même de ses réponses. Plus tard, ces mêmes chefs juifs diront, mais comment celui-ci connaît-il les lettres, puisqu'il ne les a pas apprises? Ah, c'est que, comme il le dit dans le psaume 40, à son Dieu, ta loi est au-dedans de mes entrailles, comme les tables de la loi étaient dans l'arche. Et Jésus vivait de la parole de son Dieu, comme il le cite au diable. Il fait trois citations au diable, mais la première, c'est « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de la bouche de Dieu. » Et Jésus est un modèle. Il vivait de la parole de son Dieu, comme nous devons en vivre. Et pas seulement la connaître, c'est bien de la connaître dans notre être intérieur, mais de la vivre, d'en vivre, c'est encore autre chose. Il cite trois versets du Deutéronome, « Tu honoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Il est encore écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Jésus connaissait la valeur, la puissance de cette épée de l'esprit, cette épée de la parole maniée par l'esprit. Il aurait pu dire, comme David, de celle de Goliath, il n'y en a pas de pareil. Il nous faut croire aussi à la puissance de la parole de Dieu contre le diable. Nous n'avons pas d'autre défense que celle-là. Jésus cite 19 fois l'Ancien Testament. Il cite 6 fois Ésaïe. Et là, j'ai pas le temps de chercher ces 6 citations. Jésus connaissait l'Ancien Testament. Et c'est remarquable aussi dans l'évangile de Matthieu, surtout. Matthieu, l'évangéliste, il est absolument impressionné par la concordance des écrits de l'Ancien Testament avec les événements qui se passent. Il relate un événement qui se passe dans la vie de Jésus afin que l'Écriture soit accomplie. Un autre, afin que l'Écriture soit accomplie. Je vous engage à chercher tous ces passages. Et Jésus aussi dit certaines paroles afin que l'Écriture soit accomplie, dit même sur la croix, j'ai soif afin que l'Écriture soit accomplie. J'arrive au dernier point, révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse, l'Oméga. En fait, dans l'Apocalypse, tout est révélé. Vous avez au chapitre 1, c'est le juge suprême qui est révélé. Dans les chapitres 2 et 3, vous avez le véritable état de l'Église durant toute son histoire qui est révélée, avec trois églises qui sont déjà passées et quatre dernières qui vont de front jusqu'à la venue du Seigneur, jusqu'à l'enlèvement. Chapitre 6 à 19, le véritable état du monde et de ceux qui le gouvernent est révélé, et les jugements successifs qui frappent ce monde impie, pour arriver au chapitre 19, au roi des rois, seigneur des seigneurs. Chapitre 20, le règne est révélé. Le jugement définitif du grand trône blanc est révélé. Au chapitre 21, la sainte cité, l'état éternel. Ce terme n'est pas dans la Bible, mais pour faire comprendre qu'il n'y aura pas de fin. 21, la sainte cité, l'épouse de l'agneau, pendant le règne. Et une rétrospective, une marche en arrière pour l'annonce de la venue de Jésus qui clôt le livre. Enfin, tout est révélé. Mais c'est quand même principalement la révélation de Jésus-Christ. Alors, j'emploie une image très ancienne, déjà ancienne. Nous sommes en 1508, je crois. Michel-Ange a buriné sur un bloc de marbre de Carrare pesant 5 tonnes pendant 3 ans. dans son atelier à Florence. Et au terme de ces 3 ans d'effort, sa statue est terminée. Avec ses aides, il la met, je brode un tout petit peu, mais il la met sur un chariot et un grand voile dessus. Et il pousse le chariot sur une place de Florence où sont massés pour l'événement tous les Florentins. Et là, devant tous, dans un geste auguste, Michel-Ange enlève le voile de dessus la statue et apparaît le magnifique David de Michel-Ange, qui est encore à Florence. Eh bien, c'est ainsi l'Apocalypse. Dieu va enlever le voile, Apocalypsis, action d'ôter le voile, révélare, en latin, si vous voulez, aussi, c'est toujours dévoilé. Dieu va ôter le voile de dessus, pas de dessus David, mais dessus le fils de David. Dieu veut montrer pendant 1000 ans à tout l'univers, à toutes les intelligences terrestres, célestes et même infernales, la gloire de Jésus. Dieu y tient. De celui qui un jour sur la terre a souffert, a été rejeté par les hommes, a été crucifié comme un brigand sur la croix, comme un malfaiteur, Dieu veut montrer cet homme glorieux aux yeux de tout l'univers. Ça, c'est la pensée de Dieu. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit, c'est peut-être une parole un peu qui nous dépasse un peu, mais c'était celle-ci, Dieu n'aurait jamais fait le ciel et la terre si ce n'est pour qu'ils fussent la sphère du déploiement de la gloire du Fils. C'est impressionnant. C'est notre salut, c'est une chose précieuse, mais c'est la gloire de Jésus. La Bible, ce livre, on l'a dit dans cet expo, c'est le livre le plus traduit, le plus diffusé au monde, le plus aimé, le plus haï. On le lit de la Polynésie lointaine jusqu'au Groenland, du Japon jusqu'au cœur de la brousse africaine, dans toutes les langues. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que 360 millions de chrétiens souffrent, sont persécutés pour l'amour, pour la parole de Dieu. 360 millions. Il y a des enfants. 5000 chrétiens sont assassinés chaque année pour leur amour pour la parole de Dieu. 15 par jour. 5000 chrétiens sont en prison pour leur amour pour la parole de Dieu. J'étais impressionné par cette expression de Apocalypse 6. Ils furent égorgés pour la parole de Dieu. C'est une parole terrible et glorieuse. La Corée du Nord est le pays où il y a le plus de Bibles enterrées et cachées. À la tombée de la nuit, les chrétiens déterrent leur Bible et la lisent à la dérobée au péril de leur vie. La Bible se trouve dans des endroits insolites. Vous savez qu'en 74, l'expédition Apollo 14 a emmené une Bible sur la Lune, un microfilm. Entre nous, elle ne sert pas à grand monde. Il vaut mieux la diffuser sur la terre des hommes. Mais le pasteur Philippe Martinez de Die. En 2006, pasteur et guide de haute montagne, après des mois de préparation, il a monté au sommet de l'Everest, sur le toit du monde, et a déposé une Bible là-haut, à la vue de toutes les nations, c'était assez médiatisé. À moins 42. Et avec le reste d'oxygène qu'il avait dans les poumons, il a chanté « À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité ». Il faut que je conclue. Et j'emprunte ma conclusion, ou du moins je m'en inspire, à des paroles d'un noble vieillard, à la fois érudit et humble. Ces qualificatifs font parfois pas trop bon ménage. Mais quand ils sont ensemble, c'est vraiment beau. J'ai dit Jules Marcel Nicole, professeur de théologie à l'Institut de Nogent-sur-Marne, fondé par Ruben Seyens. Pendant des siècles, si j'ai bien retenu la leçon de ces jours, pendant 6 siècles de persécution, on a brûlé la Bible. C'est ce qu'on appelle un auto-da-fé. Mais savez-vous qu'il y a quelque chose de plus grave pour la Bible que le feu? C'est la poussière. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu laisses, et c'est vrai pour moi aussi, est-ce que nous laissons déposer de la poussière sur nos Bibles entre deux dimanches? Mais savez-vous qu'il y a quelque chose de plus grave pour la Bible que la poussière? C'est la désobéissance. Nous avons plusieurs exemples. Nous avons plusieurs exemplaires de la Bible dans nos maisons et parfois nous la négligeons ou nous lui désobéissons. On aime avoir une Bible usée, fatiguée. Une Bible sur la page desquelles par endroits il y a des traces de larmes. Une Bible qui a été l'épée de l'esprit dans la vie des enfants de Dieu. Une Bible qui a soutenu la foi dans les épreuves. Une Bible qui a renouvelé cette foi, qui a entretenu l'espérance, qui a fait abonder l'amour. Qu'il en soit ainsi de chacun de nous, pour la gloire de celui qui remplit les Écritures. Je vous remercie de votre longue et patiente attention. Si un frère veut clore par la prière, ce serait bien.